Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le défilé des Champs-Élysées aux couleurs américaines avec Donald Trump en invité d'honneur, rien ne nous séparera jamais des États-Unis, déclare le chef de l'État. Analyse dans un instant de Christine Moncla, le président de la République qui va se rendre maintenant à Nice pour les commémorations de l'attentat de l'an dernier. Nous y retrouverons Nathanaël Charbonnier à la fin de cette édition. Ces cérémonies du 14 juillet se déroulent sur fond de vives polémiques après l'annonce d'une coupe de 850 millions d'euros dans le budget de la défense dès cette année, 2017. Dernier développement de la polémique avec Camille Magnard. La loi travail franchit une étape importante, adoption par l'Assemblée nationale de la loi d'habilitation. Les députés donnent ainsi leur feu vert à une large majorité au gouvernement pour légiférer par ordonnance sur cette réforme du Code du travail, suivi et explication de Stéphane Robert. Une attaque contre des policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. Deux d'entre eux ont été tués ce matin, les trois assaillants abattus. Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou viennent d'avoir une conversation téléphonique. On sera sur place avec Étienne Monin en direct de Jérusalem. Et puis les hommages à travers le monde aux dissidents chinois Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, mort d'un cancer. Le porte-parole de la diplomatie chinoise affirme ce matin que le prix avait été blasphémé par la désignation d'un prisonnier condamné conformément, dit-il, aux lois de la Chine. On sera en ligne avec Dominique André. Les présidents français et américains donc ont assisté côte à côte à l'instant au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, rompant une nouvelle fois avec la tradition. Le chef de l'État a prononcé une courte allocution depuis la tribune présidentielle et d'abord pour célébrer donc cette amitié franco-américaine. Voici un extrait.
L'histoire de la France ne commence pas le 14 juillet 1789, mais ce jour-là, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre. Et toujours, durant notre histoire, nous avons trouvé en nous cet amour de la patrie qui nous a sauvés, cette énergie pour nous unir autour de ces idéaux. Nous avons trouvé aussi des alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours. Les États-Unis d'Amérique sont de ceci. C'est pourquoi rien ne nous séparera jamais. La présence aujourd'hui à mes côtés du président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, et de son épouse, est le signe d'une amitié qui traverse les temps.
Voilà donc ce que déclarait il y a quelques minutes le chef de l'État sur les Champs-Élysées. Bonjour Christine Moncla.
Bonjour Antoine.
Alors, il faut souligner d'abord une nouvelle fois cette innovation, allocution devant les Champs-Élysées alors que le défilé venait de se terminer.
Oui, tout à fait. En ce moment même, Emmanuel Macron s'offre aussi un petit bain de foule filmé à distance par les caméras de l'Élysée. Et auparavant, il a en effet prononcé une adresse, hein, même pas une allocution, une adresse face aux Champs-Élysées avec tout le décorum qui allait avec. Emmanuel Macron entretient ici, comme d'habitude, sa position de surplomb, hein, qu'il affectionne particulièrement depuis qu'il a été élu. Il a préféré effectivement cette formule à la traditionnelle interview du 14 juillet, qui était certes très encadrée, mais avec tout de même la présence de journalistes. Là, Emmanuel Macron, il contourne, il court-circuite la presse, alors qu'aujourd'hui, particulièrement, aurait pu être posée, par exemple, la question des relations avec les États-Unis sur le climat, ou la question du budget des armées, qui doit être réduit. On le sait, un sujet qui crispe les relations entre l'exécutif et les militaires, mais plutôt que de répondre sur les arbitrages à venir, par exemple, eh bien Emmanuel Macron s'en est tenu à l'hommage officiel. Écoutez un extrait.
Ici, en France, et partout dans le monde, il est des hommes et des femmes qui ont choisi de s'engager, de risquer leur vie pour que ces droits vivent, prévalent. Ces hommes et ces femmes, ce sont nos soldats, nos policiers, nos sapeurs-pompiers, nos gendarmes, nos douaniers, ce sont tous ceux qui nous protègent. Ils défilent en ce jour de fête nationale parce qu'ils sont l'armée de la liberté et des droits. Leur loyauté, leur dévouement, leur force nous permettent de vivre selon les règles que nous nous sommes choisies. Je veux ici les en remercier.
Alors, hommage appuyé aussi aux soldats blessés, aux pupilles de la nation et aux victimes du terrorisme qui étaient invités au défilé et qu'il va retrouver cet après-midi à Nice.
Merci beaucoup Christine Moncla, vous y avez fait allusion. Ces cérémonies se déroulent sur fond de vives polémiques, très vives, après l'annonce d'une coupe de 850 millions d'euros dans le budget de la Défense 2017. Monsieur Macron a recadré hier soir le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, qui s'était insurgé devant les députés contre cette réduction de moyens. Mais ce matin, c'est le président de la commission de la Défense de l'Assemblée nationale, s'appelle Jean-Jacques Bridet, qui à son tour dit regretter ce choix présidentiel. La polémique apparemment ne semble pas éteinte, Camille Magnard.
Et non, et même s'il a annoncé hier soir que le budget de la Défense serait augmenté l'an prochain d'1,3 milliard, le chef de l'État n'est pas revenu, il faut bien le dire, sur l'arbitrage budgétaire pour cette année, ces 850 millions d'euros que vous évoquiez et qui avait fait sortir de sa réserve le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. C'était mercredi devant la commission Défense de l'Assemblée et le général n'y était pas allé de main morte. « Je suis peut-être con, mais je sais quand on veut m'avoir. Je ne me laisserai pas baiser par Bercy. » Emmanuel Macron lui a donc répondu publiquement hier soir devant les hauts gradés de l'armée réunis à l'hôtel de Brienne. C'est plus policé, mais c'est surtout très martial.
« Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. Je suis votre chef. Les engagements que je prends, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. J'aime le sens du devoir. J'aime le sens de la réserve qui a tenu nos armées où elles sont aujourd'hui. »
Voilà, même pas de tentative d'explication des choix budgétaires, mais un recadrage particulièrement autoritaire. Et le général de Villiers qui est rentré dans le rang dès ce matin, il a ouvert droit dans ses bottes le défilé du 14 juillet aux côtés du président de la République. Dans une tribune publiée par le Figaro ce matin, tout de même, le chef d'état-major fait même mine de se satisfaire des annonces d'Emmanuel Macron hier soir avec cet objectif réaffirmé, ramener le budget des armées à 2% du budget total de l'État en 2025. Mais malgré tout là, la polémique, elle rebondit, vous l'avez évoqué Antoine, sur le terrain politique, dans les rangs même de la majorité, le député En Marche et président de la commission de défense de l'Assemblée, Jean-Jacques Bridet, qui déclare qu'il regrette le choix de maintenir ses 850 millions d'euros d'économies cette année. Regret, explique-t-il, qu'on demande à nos soldats qui risquent leur vie chaque jour de se serrer encore un peu plus la ceinture, quand dans le même temps, on débloque 1,5 milliard d'euros de crédit pour la capitalisation d'Areva.
Alors à propos des restrictions budgétaires, il faut quand même dire aussi un mot des autres, et notamment celle qui concerne l'éducation. Si on fait les comptes, ce qu'a fait le journal Le Monde aujourd'hui, c'est plus de 330 millions d'euros qui vont être donc ponctionnés sur ces divers budgets dans ce secteur. Et là aussi, il y a des vives protestations.
Oui, la colère, grosse colère des syndicats d'enseignants, chercheurs et d'étudiants. Maintenant que l'on sait donc que dès la rentrée prochaine, les universités françaises vont voir leur budget amputé de 95 millions d'euros. Les fonds consacrés à la vie étudiante de 46,5 millions. La conférence des présidents d'université se dit très inquiète pour cette rentrée qui, selon elle, est en danger car les crédits diminuent bien plus vite que prévu au moment où le nombre d'étudiants inscrits, lui, n'en finit pas d'augmenter, plus 40 000 attendus en septembre. Le ministère explique que les sommes à économiser correspondent à des crédits qui avaient déjà été mis en réserve par précaution, que le tour de vis budgétaire ne va affecter ni les moyens des universités ni ceux de la recherche. N'empêche, chez les enseignants, le SNESUP-FSU juge inacceptable les coupes budgétaires annoncé. Il déplore le fait que la promesse du candidat Macron de sanctuariser le financement des universités n'a pas tenu plus de 2 mois. Il appelle déjà ce syndicat majoritaire chez les profs des universités à des assemblées générales dans les facs à la rentrée.
Merci beaucoup Camille Magnard. Dans le journal Le Monde ce soir, une interview du vice-président de Les Républicains, Laurent Wauquiez, qui estime qu'Emmanuel Macron n'a pas d'idéologie, pas de boussole, pas de valeur. Selon lui, le chef de l'État et sa majorité changent régulièrement de posture car ils n'ont pas, je cite, toujours de colonne vertébrale. En attendant, la loi travail franchit une étape importante avec l'adoption par l'Assemblée hier de la loi d'habilitation. Les députés ont donné ainsi leur feu vert à une large majorité au gouvernement pour légiférer par ordonnance sur ce thème de la réforme du code du travail. La majorité ainsi que les Républicains et les constructifs LR-UDI ont voté pour, alors que la nouvelle gauche, donc l'ancien PS, les insoumis et les communistes ont voté contre. Le texte va maintenant être transmis au Sénat pour être voté définitivement d'ici la fin de la session extraordinaire début août. Et puis les ordonnances qui sont en cours de rédaction, négociations avec les syndicats se poursuivent, prendront effet d'ici la fin de l'été. Bref, cette blitzkrieg sociale dont on a tant parlé, Stéphane Robert, se déroule pour l'instant sans encombre.
Avec quand même l'effet de surprise en moins, puisque l'un des ressorts essentiels de la blitzkrieg, à laquelle, dans sa version militaire à laquelle vous faites référence, c'est que personne ne la voyait venir. On pourrait donc dire plutôt que le plan d'Emmanuel Macron se déroule comme il l'avait annoncé. Rappelons que cette loi d'habilitation comporte 9 articles qui n'ont quasiment pas été amendés. Elle ne modifie pas en elle-même le code du travail, mais détermine le cadre au sein duquel les députés autorisent le gouvernement à modifier la réglementation. En l'espèce, les textes prévoient une modification de l'articulation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise, avec donc des modifications sur ce qui sera prioritaire, également une fusion des instances représentatives du personnel, et puis un changement juridique de la manière dont on peut rompre le contrat de travail, avec notamment la mise en place d'un barème pour les indemnités prud'homales. On a donc là encore une fois le cadre qui doit être validé par les sénateurs, ce qui se fera sans doute sans trop de difficultés. Ensuite, c'est le contenu de ces ordonnances qui sera rédigé par l'exécutif dans le courant de l'été, à savoir qu'est-ce qui est prioritaire sur quoi, pour quelle branche, quelle entreprise, quel barème également pour les licenciements. Ces ordonnances seront présentées en Conseil des ministres d'ici le 20 septembre, ce sera donc soit le 20, soit un peu avant. Là, il y aura vraisemblablement un jeu politique qui va se dérouler entre l'exécutif et les organisations syndicales, puisqu'une journée d'action est prévue une semaine avant, le 12 septembre. Une fois ces ordonnances présentées en Conseil des ministres, elles entreront automatiquement en application, mais elles ne deviendront des lois et donc pleinement et définitivement applicables qu'après ratification par les députés et sénateurs. C'est prévu sans délai, fin septembre ou début octobre. L'intérêt de cette procédure pour le président et le gouvernement est donc, 1, d'accélérer considérablement l'adoption de cette nouvelle loi en évitant la navette parlementaire, et 2, de limiter la contestation, à la fois dans la rue avec le raccourcissement des délais et au Parlement, en privant les parlementaires de l'élaboration de la loi et en ne leur accordant que le pouvoir de dire oui ou non, en l'occurrence avec une très large majorité à l'Assemblée et une droite qui ne s'oppose pas à cette réforme. Ce sera oui, sans quasiment de contestation.
Merci Stéphane Robert. On revient maintenant à cette visite d'État de Donald Trump en France, qui a pris fin donc il y a quelques minutes. Les présidents français et américains ont affiché hier une entente presque parfaite, exprimé leur détermination à travailler ensemble sur tous les sujets. Et lors d'une conférence de presse commune hier à l'Élysée, les deux dirigeants ont multiplié les amabilités. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
On peut peut-être regarder comment la presse américaine voit cette visite, comment elle la commente ce matin.
Bien, sont d'abord les marques d'amitié, les gestes d'affection que cette presse américaine semble retenir. Le Washington Post note ainsi que le somptueux dîner à la Tour Eiffel est venu clore une journée de fréquentes tapes dans le dos, poignées de main, large sourire et eu cette détermination commune de trouver un terrain d'entente. C'était le thème dominant du jour à Bond Politico sous le titre Trump et Macron, du mano à mano au tête à tête. Il rappelle le chemin parcouru entre les deux hommes depuis leur virile poignée de main lors de leur première rencontre et se demande non si ces marques d'affection étaient authentiques, mais si les deux hommes n'en ont pas trop fait, passant la journée à se prendre mutuellement le bras, à se passer la main dans le dos ou à rire aux éclats. Une mise en scène de la proximité, comme si la relation spéciale si souvent invoquée entre les États-Unis et le Royaume-Uni était désormais pour la France. Puisque le fond, c'est donc la forme qui retient l'attention outre-Atlantique. Les remarques de Donald Trump félicitant Brigitte Macron pour son physique avantageux lors de l'accueil aux Invalides suscitent bien davantage de commentaires que les dossiers abordés par les deux présidents lors de la tête-à-tête. Sans doute parce que notre encore le Washington Post, il n'est sorti de ses entretiens que de vagues généralités sur le climat ou la Syrie. Certains sites, quant à eux, n'hésitent pas à se gausser de la bourde de Donald Trump aux Invalides lorsqu'il s'est vanté d'avoir tout lu sur le D-Day, le jour du débarquement. Mais ce n'est pas ce que l'on célèbre aujourd'hui. Le New York Times, qui lui continue toujours à titrer sur les ennuis de la famille Trump concernant ses liens avec la Russie, remarque tout de même que les deux chefs d'État ont tout fait pour minimiser leurs différends lors de leur conférence de presse commune, que ce soit sur le commerce, l'immigration ou le climat. Ils ont décidé de mettre les tensions initiales derrière eux pour travailler ensemble, écrit le New York Times. CNN abonde cette invitation à la parade militaire, un événement dont raffole le président Trump, constitue une démonstration stratégique d'amitié de la part d'Emmanuel Macron, qui espère rehausser le standing de son pays en flattant son homologue. Quant à USA Today, il note que la vision de Donald Trump sur Paris, dont il vante la beauté, a déjà changé. Quand on lui demande ce qu'il a pensé de sa première journée dans la capitale française, il répond « Very good ».
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. C'est l'incident le plus sérieux de ces dernières années. Dans la vieille ville de Jérusalem, 3 assaillants ouvrent le feu sur des policiers israéliens. 2 d'entre eux viennent de succomber à leurs blessures. Les assaillants ont été abattus peu après cette attaque, donc sur l'esplanade où ils avaient fui et dont les entrées ont été fermées hier du vendredi. Donc impossible ce matin. Le ministre israélien de la Sécurité publique qualifie l'attaque d'événement extrêmement grave. On est en ligne avec Étienne Monin. Bonjour.
Bonjour.
Et puis à l'instant, ce coup de fil entre Netanyahou et Abbas, sans doute pour pour éviter ou prévenir toute escalade qui menace toujours dans cette région et notamment sur ce lieu aussi symbolique.
Oui, parce que cette attaque propage la violence sur le site le plus sensible de la région, l'esplanade des mosquées pour les Palestiniens, le mont du Temple pour les Israéliens. C'est une violence visible, les tirs contre les policiers ont lieu à l'extérieur, mais une vidéo montre la fusillade qui suit à l'intérieur du périmètre du lieu saint. On voit un Palestinien au sol qui se relève, qui se jette en direction des policiers et qui est abattu de plusieurs balles à bout portant. Les trois Palestiniens sont des Arabes israéliens. D'après les services de sécurité, ils sont originaires du nord d'Israël. Ils ne sont pas connus. Ils avaient au moins une arme automatique artisanale, un pistolet et des couteaux. Dans la foulée, l'accès à l'esplanade des mosquées a été fermé. La grande prière du vendredi fait rarissime a été annulée. On peut voir de vieux Palestiniens assis à l'ombre des murs devant la porte de Damas, bloqués par des policiers postés derrière des barrières. Et cette violence ravive aujourd'hui les tensions autour du thème de la souveraineté du lieu saint. Certains Palestiniens accusent déjà les Israéliens d'exploiter ou de vouloir exploiter cette attaque pour mettre la main sur l'esplanade des mosquées. C'est un sujet explosif, exploité par les extrémistes des deux bords, capable de déclencher un soulèvement redouté aujourd'hui par les observateurs. Vous le disiez donc, d'après la presse palestinienne, le premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne se sont parlé au téléphone. C'est un geste d'apaisement. Mahmoud Abbas a condamné cette attaque et Benjamin Netanyahou a fait savoir que le statu quo sur le lieu saint serait préservé.
Merci beaucoup Étienne Monin, vous étiez donc en direct de Jérusalem. Au lendemain du décès en détention du dissident chinois Liu Xiaobo, Pékin réagit avec colère ce matin aux critiques émises par des pays étrangers. Alors que les médias chinois se gardent d'évoquer la mort du dissident, dont le nom reste tabou d'ailleurs dans le pays, le grand quotidien Global Times faisait exception à la règle avec un éditorial qui attaquait des forces étrangères. La correspondance à Pékin, Dominique André.
Après plusieurs jours d'agacement en point presse quotidien du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole chinois Gang Shuang hausse le ton aujourd'hui. Le régime communiste proteste officiellement auprès des États-Unis, de l'Allemagne, de la France et des Nations Unies après leurs critiques sur la mort en détention de Liu Xiaobo. Monsieur Gang rejette les déclarations des pays étrangers qui ont tenu, a-t-il dit, des propos irresponsables, déplacés. La Chine s'en prend aussi au comité Nobel. Le gouvernement chinois estime que le prix Nobel de la paix a été blasphémé. Attribuer le prix à une telle personne contredisait l'objectif de cette récompense, a déclaré le porte-parole officiel. La lutte pour les droits humains contribue à la paix, a indiqué l'ancien président du comité Nobel norvégien sur Twitter. Après la mort du plus célèbre des dissidents chinois, les opposants au régime communiste de Pékin s'inquiètent du sort de son épouse, la poétesse Liu Xia, en résidence surveillée depuis 2010. Très amaigrie et dépressive selon son entourage, elle n'a pas donné de nouvelles depuis le décès de Liu Xiaobo. Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé à sa libération, mais le gouvernement chinois n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. La presse officielle garde le silence, tandis que les réseaux sociaux bataillent avec la censure pour témoigner de leur tristesse, de leur colère et de leur foi dans la liberté.
12h48 sur France Culture, on revient sur ces commémorations de l'attentat de Nice. Un an après, les cérémonies d'hommage aux victimes vont démarrer dans un peu moins de 2 heures en présence du chef de l'État qui est donc parti. Après les cérémonies sur les Champs-Élysées, on est en ligne avec Nathaël Charbonnier. Bonjour.
Bonjour.
Comment donc vont se dérouler les cérémonies à partir de cet après-midi ?
Écoutez, c'est une journée complète d'hommage qui a lieu en ce 14 juillet à Nice. Cela a commencé ce matin, quai des États-Unis, où les Niçois qui le souhaitaient sont invités à venir déposer des plaques bleues, blancs et rouges pour écrire les mots « liberté, égalité, fraternité ». Ensuite, il y a eu une cérémonie religieuse organisée pour les proches. Mais le grand temps fort, c'est donc cet après-midi, vous venez de le dire Antoine, avec plusieurs rendez-vous. Un grand défilé militaire à 16h30 en présence d'Emmanuel Macron, suivi par une cérémonie organisée par la ville et les familles. On va en reparler. Des textes seront lus par diverses personnalités comme Patrick Chenet, François Berléand, Michel Larocque, Lynn Renault ou encore Michel Bougenat. Ensuite, il y aura plusieurs concerts avec l'Orchestre Philharmonique de Nice ou plus tard dans la soirée, le chanteur Calogero. La journée se terminera par la mise en lumière de 86 faisceaux lumineux. 86 comme le nombre de victimes du 14 juillet 2016. C'était tout juste il y a un an. Avec nous pour en parler, Stéphane Jiquel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Tout d'abord, je suppose que votre sentiment d'être ici aujourd'hui, c'est quelque chose d'émouvant et de touchant.
Bien sûr, il était important que nous soyons là aux côtés des victimes qu'on accompagne depuis le 15 juillet, au jour le jour, dans leurs difficultés, dans leur colère, dans leurs angoisses. Et donc il était naturel, bien évidemment, qu'on soit aujourd'hui à leur côté.
Alors c'est un hommage national, on l'a dit. Le côté national a toute son importance.
Oui, parce que bien évidemment, c'est un événement qui a déjà extrêmement frappé le territoire de Nice. Et les répercussions sont beaucoup plus fortes que ce qu'on a pu vivre, par exemple, pour le 13 novembre. Il y a une dimension planétaire. Les victimes sont de 53 nationalités différentes. Et puis, je crois que, bien évidemment, ces victimes, elles attendent des signes forts de reconnaissance par la nation, par les plus hauts représentants de l'État. Et c'est le sens, d'ailleurs, de la présence du président de la République.
Ça veut dire des paroles et des actes.
Des paroles et des actes, bien évidemment. On n'est plus à un stade où la compassion, les simples mots suffisent. Il faut aujourd'hui des engagements de l'État dans la durée, dans la très longue durée. Bien évidemment, cette cérémonie aujourd'hui, le 14 juillet, n'est pas là pour marquer la fin d'un cycle ou de refermer une parenthèse. Non, c'est simplement une bulle de bien-être aujourd'hui. Mais bien évidemment, on a besoin d'un engagement de l'État dans les années à venir.
Alors, la ville et les familles ont vraiment travaillé ensemble pour cette journée. Je le disais tout à l'heure, l'idée des 86 faisceaux lumineux dans le ciel, ce sont les familles qui l'ont apporté. Et puis, il y a plein d'autres idées comme celle-là. C'est important que les familles puissent dire ce qu'elles avaient envie de dire de cet hommage national.
Oui, parce que les familles, elles doivent s'approprier, c'est leur histoire aussi. Et depuis décembre, il y a un travail de co-construction régulier avec la mairie, où des fois, il y a eu un petit peu des... Le ton est monté parfois, mais c'est quelque chose aujourd'hui, vraiment le résultat d'une co-construction, d'un dialogue. Et pour nous, c'est extrêmement important que les victimes soient actrices. Elles doivent pas subir les conséquences de l'attentat, elles doivent être actrices. Et c'est vraiment ce qui donne aussi toute sa richesse à cette journée de commémoration.
Il y aura des prises de parole des différentes associations. Vous prendrez la parole ?
Alors nous, on prendra pas la parole. Il y aura simplement un texte lu par un représentant de l'association Promenade des Anges. C'est vraiment aujourd'hui la journée de ces familles de victimes.
Vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas dire on tourne la page. L'expression est un peu stupide, mais en même temps, il faut avancer. Alors est-ce que ce moment-là, c'est vraiment juste une bulle ? C'est le moment qui permet de repartir, de se reconstruire ?
Ces familles, elles sont en équilibre depuis ce 14 juillet. Elles font pas comme elles veulent, elles font comme elles peuvent. Et chacun fait un petit peu, essaye de trouver ses équilibres. C'est compliqué. Certaines familles ont choisi de fuir Nice, de s'isoler aujourd'hui. D'autres ont choisi, par contre, de traverser le monde pour venir aujourd'hui. Vraiment, chacun essaye de trouver ses équilibres. C'est pas simple. C'est l'articulation entre quelque chose qui est très intime, c'est-à-dire son deuil personnel, un deuil collectif. Et notre message, c'est de dire, voilà, la vie, elle sera plus jamais la même. Votre vie, elle sera plus jamais la même. Mais elle vaudra toujours le coût d'être vécu. Et l'engagement de l'État, c'est d'aider ces familles à continuer à vivre.
Elles se sont appuyées sur vous pendant toute cette année. Qu'est-ce qu'elles vous ont demandé, toutes ces familles, d'être le relais au niveau national, de parler d'elles, de ne pas les oublier, de...
Bien sûr, pas les oublier. Ça, c'est toujours cette crainte. Il faut d'abord savoir écouter des victimes. Et les mots ne viennent pas forcément dans les premières minutes d'entretien. Il faut parfois de longs entretiens répétés pour que vraiment émergent les vraies difficultés, ce qu'on a du mal à dire, notamment sur les rescapés qui vont avoir un sentiment de culpabilité, qui vont minorer leurs propres difficultés. Parce qu'elles ont vu la mort, parce qu'elles ont vu des personnes plus blessées grièvement. Donc c'est à l'écoute et essayer de faire du sur-mesure, de voir quels sont les besoins, quelles sont les réponses à apporter, notamment en termes social, en termes de recherche d'emploi, de santé. Vraiment, c'est être à l'écoute de ces familles et de ces victimes.
C'est difficile de définir la notion de victime. Tout à l'heure, j'ai rencontré un monsieur qui me disait « Moi, j'étais là, j'ai couru, mais bon, il ne m'est rien arrivé. » Et en même temps, il m'expliquait qu'il en parlait et qu'il y pensait tous les jours. C'est une victime.
Aujourd'hui, Nice, plus que Paris, encore Nice, parce que c'est arrivé en milieu ouvert avec des dizaines de milliers de personnes, nous interpelle sur la notion de victime de terrorisme. D'un point de vue juridique, on est victime de terrorisme si le camion aurait pu vous écraser. Si vous êtes sur l'autre voie de circulation, on va vous dire, ou si vous êtes sur la plage, ou si vous étiez 500 mètres devant le camion ou 200 mètres devant le camion, on va dire, mais non, le camion n'aurait pas pu vous atteindre. On voit bien que c'est pas satisfaisant aujourd'hui et qu'il y a, réflexion à initier et à réfléchir en termes de santé publique, effectivement, pour toutes ces personnes qui ont été traumatisées.
Pour terminer, vous avez suivi la polémique avec Paris Match et les images qu'a présenté l'hebdomadaire. information contre douleur, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais simplement...
C'est est-ce la dernière question à l'internet, oui.
Est-ce que ça permet, ces moments-là, est-ce que les victimes en souffrent véritablement? Et est-ce qu'on peut y échapper? Quel est votre sentiment?
Ça a été un vrai choc. Et là, l'intérêt de la saisine de justice, c'est montrer qu'on ne peut pas tout faire, qu'il y a des limites. Et alors, je vais vous paraître très sévère. Pour moi, aujourd'hui, ce numéro Paris Match, c'est le testament du terroriste. C'est-à-dire qu'on reprend Paris Match, relaie cette volonté de mort, relaie cette volonté d'effrayer, relaie cette volonté de déshumaniser et continue, contre son gré bien évidemment, l'œuvre du terroriste. Donc il faut aussi avoir une vraie réflexion.
Stéphane Jiquel, président de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, je vous remercie. À vous Antoine, on vous retrouve tout à l'heure à 18h pour les grandes cérémonies.
Merci beaucoup Nathalie Charbonnier. À tout à l'heure donc. Pluvieux sur le nord-est, plus ensoleillé sur le reste du pays. 19 à 22 degrés près de la Manche, 22 à 27 ailleurs, 29 jusqu'à 34 degrés sur le sud-est et en Corse. Une édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Catherine Dutu.